Charla, bienvenue dans Les Grands S'amusent. Ce soir, je reçois pour une deuxième émission ensemble Monsieur Abdel Hakim Oudbib. Bonjour.
Bonjour.
Nous avions échangé sur le multiculturalisme et la diversité. D'ailleurs, vous pouvez voir le podcast sur le site d'Aligre. Aujourd'hui, il est question d'intégration et donc d'immigration. Je rappelle que vous êtes né au Maroc en 1963. Vous avez décidé de venir en France à l'âge de 20 ans pour y faire vos études. Vous avez été étonné que l'on s'intéresse davantage à votre couleur de peau qu'à votre personnalité. Nous allons tenter de répondre à ces questions. Comment favoriser l'intégration? Qu'est-ce qu'une bonne intégration? Quel est le rôle des différents acteurs? Environ un tiers des Français ont une ascendance étrangère si l'on remonte aux arrière-grands-parents. Dans l'échelle des immigrants les mieux acceptés, quelle est leur nationalité? Est-ce plus difficile pour les musulmans? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs? L'histoire de la France, du monde, est liée à l'histoire de l'immigration. Les frontières bougent. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de peurs identitaires. Nous construisons des murs. Est-on citoyen du monde? À l'heure où l'identité nationale est au centre des débats, parlons de ce sujet délicat mais important. Monsieur Oudbib, est-ce que c'est un sujet sensible pour vous?
Alors, c'est pas un sujet sensible, ça ne m'empêche pas de dormir, mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble dans cette société.
Alors, il existe plusieurs formes d'immigration, c'est important de le préciser. On a, comme aujourd'hui malheureusement, des réfugiés de guerre comme les Ukrainiens, donc c'est une immigration subie. Il y a celle que l'on choisit, qui est votre cas. Voilà, vous avez fait le choix de venir en France. Puis il y a le clandestin, qui est a priori la pire des situations. Hein. Le réfugié va demander l'asile, on doit l'assister, cela relève du droit international. On parle de bons réfugiés, des mauvais migrants. Il y a un petit peu de tri racial, de racisme humanitaire. C'est un sujet vraiment d'actualité. Beaucoup de personnalités publiques sont issues de l'immigration. Par exemple, Serge Gainsbourg, sa famille était juive d'origine russe, installée à Paris. Ils avaient fui la Russie en 1921 et naturalisée en 1932. Ses parents, malheureusement, ont fait l'objet d'une enquête en vue de les dénaturaliser, qui a abouti en 1942. Et voilà, Serge Gainsbourg estimait qu'il était en sursis et jusqu'à la fin de sa vie, et que voilà, et la vie était un cadeau. Donc il y a des migrants, des réfugiés, des exilés, des aventuriers, des dublinés, des sans-papiers. Le choix des mots est important. Il y a, dans les personnalités, on peut citer Monsieur Zemmour, le petit blanc en situation d'abandon face à des musulmans menaçants. Monsieur Zemmour, qui est petit-fils d'immigrés, on voit qu'il renie clairement ses origines et même va plus loin, hein, il rejette l'immigration. Pourquoi cette honte?
Je pense que Éric Zemmour est un très bon exemple. On l'entend beaucoup ces temps-ci. Malheureusement, c'est un personnage qui est dans les slogans et pas dans un programme politique. Moi, j'aimerais bien qu'un non-politique qui se présente devant les Français, qui puisse parler de son programme et pas nous annoncer juste des slogans, les étrangers dehors, je vais baisser les impôts, je vais. Mais il n'a aucun programme. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les grands-parents d'Éric Zemmour, c'est des Algériens. Et quand la France est arrivée en Algérie, elle a donné la nationalité française à tous les Juifs en Algérie. Ça veut dire que ce personnage, ce sinistre personnage, il ne mérite même pas la nationalité française. Et aujourd'hui, il se permet de sortir des non-vérités. Il a une lecture assez extraordinaire de l'histoire. Il ne retient que ce qu'il veut et il le transforme au moment de le sortir. Donc, c'est quelqu'un de très dangereux. Maintenant,
oui, allez-y.
Maintenant, pour revenir sur les différents flux de l'immigration, vous avez oublié d'en mentionner une qui est beaucoup, beaucoup plus pénible pour les pays d'origine. Alors, je vais résumer rapidement. Nous avons différents types d'immigration. On va commencer par le plus débile, c'est les clandestins. C'est des personnes qui n'ont aucune existence dans le pays dans lequel ils se trouvent. Et quand je dis aucune existence, ça signifie qu'ils ne peuvent prétendre à rien, même pas se faire soigner. Alors, on se demande que viennent chercher ces gens-là.
Ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils fuient leur pays ?
Mais ils pensent que c'est meilleur ailleurs, alors que c'est faux, c'est archi faux. Généralement, on choisit la fuite en avant. On pense, parce qu'on a entendu des slogans, que l'herbe est plus verte ailleurs, mais elle n'est pas forcément plus verte, parce que quand on fait un projet d'immigration, c'est un projet, c'est-à-dire qu'on doit penser à ce qu'on va aller faire ailleurs, le pourquoi, le comment. Il faut réfléchir à tout ça avant de se lancer sur un petit bateau gonflable et traverser la Méditerranée en disant « je vais être mieux ». Donc ça, c'est vraiment la partie de l'immigration la plus problématique et qui pose énormément de problèmes. Parce qu'on en fait quoi ?
Qu'est-ce qu'on en fait ? Ouais, c'est ça.
Alors, il faut savoir que pour ces gens-là, ils savent que pour qu'on puisse les renvoyer, il faut que leur pays d'origine les accepte. Donc, connaissant ça, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils cachent d'où ils viennent. Ça veut dire qu'il est impossible de les renvoyer. Je prends un exemple tout bête. Dernièrement, il y a eu un accrochage entre la France et le Maroc. La France voulait renvoyer des gens au Maroc dans un avion. Légalement, la France avait le droit de le faire, mais c'était la pandémie et le Maroc leur a demandé à ce que ces gens-là soient testés contre le Covid. Et la France n'a pas apprécié du tout que le Maroc leur réponde ça. Et ils ont sorti une petite carte en disant, puisque c'est comme ça, même les gens qui ont le droit de venir légalement en France pour tourisme ou pour affaires, on va réduire le nombre de visas de moitié. Donc, et ça devient un dialogue de sourds. Donc, cette population de clandestins, on ne sait pas quoi en faire. Mais je n'ai pas de solution. J'espère qu'il y a des hommes politiques et des femmes politiques qui seront capables de trouver une solution à tout ça. Mais une des solutions, ces gens-là, il faut qu'ils reviennent chez eux et il faut qu'on aide les pays d'origine pour que ces gens-là, ils se sentent bien chez eux, qu'ils se projettent sur un avenir dans leur pays pour y rester. Après, il y a l'immigration qui est choisie. Oui. Mais dans cette immigration choisie, il y a deux volets. Il y a le premier, c'est une personne qui décide d'aller dans un autre pays, elle fait la demande à ce pays accepte qu'elle vienne, ce qui est mon cas en 1981. Et puis, il y a aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des sociétés françaises qui vont chercher dans des écoles d'ingénieurs dans le Maghreb, je cite que le Maghreb, mais ça se passe aussi ailleurs, et qui attrapent des gamins qui n'ont pas encore le diplôme d'ingénieur et qui leur offrent des contrats de travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? On dit que oui, c'est la libre concurrence. Oui, la société française n'a pas forcé quelqu'un à la rejoindre. Mais toujours est-il que quand on déroule le tapis rouge à un jeune qui vient de sortir de l'école, il n'a aucune contrainte locale. Et il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Donc ça veut dire qu'il peut se déplacer facilement. Résultat des courses, nous sommes en train de piller des pays en voie de développement. On leur enlève tous ces ingénieurs qui viennent chez nous. Donc ceux-là, des Zemmour et compagnie, j'en entends pas parler. C'est dans leur discours, c'est absent. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend des gens qualifiés, on les enlève à leur pays d'origine, on les dépose ici, on se plaint que ces pays-là, ils ont du mal à émerger économiquement. Je cherche l'erreur et j'ai du mal à la trouver.
Mais donc, on fait un peu l'amalgame de beaucoup de choses. Hein, et ce Éric Zemmour, justement, fait l'amalgame de beaucoup de choses. Hein, on a aussi honte de notre passé colonialiste. Le fait que Macron en ait parlé, justement, pour reconnaître ce passé, est-ce que c'est indispensable pour pouvoir avancer ?
Alors, vous parlez de Macron, mais c'est une règle générale. Tous les pays européens se sont étendus dès le XXe siècle jusqu'à la fin de la moitié du XXe siècle. Ils ont colonisé d'autres pays. Je vais prendre juste une notion qui me fait toujours sourire. Le roi de Belgique a annexé le Congo en Afrique en disant c'est à moi à titre personnel. On n'est même pas dans c'est un pays qu'on colonise un autre. Non, c'est une personne qui a décidé d'annexer un territoire immense et dire c'est mon terrain privé. Bon, aucun pays jusqu'à aujourd'hui n'a eu le courage politique de s'asseoir autour d'une table et de dire on a fait ça de mal. Pourquoi ? Je n'ai pas d'explication. Mais un jour ou l'autre, il va falloir s'y mettre. Alors, dire que, ouais, on fête un peu plus ou moins la fin de la guerre d'Algérie ces jours-ci, et qu'est-ce que je vois s'étaler dans les journaux, ben, tout le monde est en train de piaffer sur la date réelle, mais on s'en fout de la date réelle. C'est que il y a eu une tragédie des deux côtés, il y a eu des morts des deux côtés, il y a eu quelque chose de sale pendant cette guerre. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on entend des hommes politiques en disant ouais, mais c'est pas la bonne date, mais on s'en fout de la bonne date. C'est
réfléchir, et pourquoi cette supériorité occidentale ? Pourquoi est-ce que effectivement on veut absolument être supérieur aux autres ?
Moi, je pense que quand on relit un petit peu l'histoire, c'était pas vraiment parce que c'était pas vraiment on est supérieur. La question, c'était il faut que j'en prenne le maximum et que j'en laisse pas aux autres. Et je connais très bien l'histoire de mon pays d'origine, le Maroc. Ben, le Maroc, pendant 20 ans, toute l'Europe s'est tapée sur la gueule. Ils ont fait des accords secrets. Ils se sont partagés le Maroc, mais ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. Et les débats, c'était pas que va devenir le Maroc. Les débats, c'était je veux y être pour ne pas laisser la place à l'autre.
Avec Monsieur Abdel Hakim Oudbig, nous parlons d'immigration et d'intégration. Donc vous nous parliez de colonisation plutôt économique que de supériorité occidentale. Je voulais savoir, quand vous êtes arrivé en France, donc c'était en 1983, semble-t-il, oui. Quelle était la politique d'immigration ?
Alors, déjà à l'époque, le débat était vif aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que la France et toute l'Europe sortaient des Trois Glorieuses. Donc, il y avait le plein emploi, Et les gens refusaient, les locaux refusaient de faire certains travaux. Donc, les Français sont allés chercher beaucoup, beaucoup d'immigrés, surtout en Afrique du Nord. Alors, donc, ce débat-là était déjà vif à l'époque. Quand je suis arrivé en 83, c'était Mitterrand était président de la République, et il avait changé une chose très importante. Avant, la France choisissait directement dans le pays d'origine les bons élèves pour leur permettre de venir faire des études en Europe. Et quand il est passé en 81, il a dit ce système, c'est fini. Maintenant, c'est les universités qui se débrouillent, elles acceptent qui elles veulent et tout le monde peut faire une demande à l'université ou à l'école de son choix. Donc, bien sûr, c'était quelque chose de beaucoup plus simple parce qu'on s'adressait à un établissement qui était libre de vous accepter ou de vous refuser. Et à partir du moment où on est accepté dans un établissement universitaire, on avait le droit de séjour. C'était un séjour étudiant, c'était très réglementé, on pouvait pas ce qu'on voulait, ainsi de suite. Mais c'était à partir du moment où vous êtes accepté dans un institut universitaire, vous avez automatiquement le droit de faire vos études en France dans le cadre d'un statut d'étudiant.
D'accord. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'une bonne intégration, justement ? C'est déjà d'être dans des études ou d'avoir un travail ?
Moi, je pense que déjà, moi, le mot intégration me dérange parce que à partir du moment où on dit il faut s'intégrer, c'est qu'il y a une difficulté. Je pense que les choses peuvent se dérouler naturellement et elles peuvent se dérouler naturellement à partir du moment où celui qui arrive quelque part, il se dit je suis chez eux. Je dois les respecter, ils doivent me respecter, mais je dois m'adapter à la culture locale.
Mais est-ce que c'est justement une intégration, même si vous n'aimez pas le mot, à double sens ? Est-ce que c'est le pays d'origine aussi qui doit faire des efforts pour faire en sorte que la personne se sente chez elle, se sente à l'aise ?
Moi, quand j'ai quitté le Maroc, j'avais aucun problème au Maroc. Je voulais faire des études qu'il n'y avait pas au Maroc. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de devenir en France. En France, parce que je suis bilingue dans langue maternelle française. Donc, c'était plus simple pour moi de venir en France. Donc, le pays d'origine, il ne peut rien faire de spécialement pour que quelqu'un puisse s'intégrer ailleurs.
Non, pas le pays d'origine. Je parlais du pays d'accueil.
Moi, je pense qu'il y a forcément un accompagnement à faire. Et cet accompagnement, c'est juste pour sensibiliser les arrivants aux lois locales, aux coutumes locales, voilà. Ce qui est accepté, il n'est pas. Alors, je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, des Italiens sont partis au Maroc chercher des gens qu'ils allaient prendre pour les autoriser à venir en Italie. Tous les candidats qui ont été retenus, ils ont passé 6 mois au Maroc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 6 mois ? On leur a appris l'italien. Mmh. On leur a appris les lois italiennes. On leur a appris à adapter leur formation aux normes et aux réglementations italiennes. En clair, les Italiens sont partis au Maroc, ils ont choisi des candidats, mais quand ils les ont retenus, localement, on leur a donné tous les moyens pour que quand ils arrivent en Italie, les choses soient moins difficiles et moins compliquées.
Donc, c'est à double sens.
Ça s'organise.
Le pays d'accueil doit quand même mettre les conditions pour que ça se passe le mieux possible et pas ensuite, malheureusement, être dans des politique ou des choses un petit peu avoir des relents de racisme de certaines personnes qui disent ils s'intègrent pas bien parce que ceci, parce que cela. Et malheureusement, on parle souvent des Arabes parce qu'il y a le voile, il y a plein de questions autour de ça, on confond l'islamisme et l'islam.
Alors, ça, c'est un autre débat. C'est aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe, c'est qu'on a des crispations des deux côtés. Aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, je l'ai vécu et je le vis tous les jours, c'est que votre niveau social efface vos origines. En clair, à partir d'un certain niveau social, on ne va plus voir quelle est votre origine. On va soit vous envier parce que vous avez un certain niveau social, soit vous admirer parce que vous avez ce niveau social. Donc, aussi la capacité d'un immigré à avoir un travail à forte valeur ajoutée va faire en sorte qu'il va être respecté et il passera beaucoup plus facilement dans la société.
Oui.
Maintenant, pour en revenir à parce que le foulard est une question de crispation des deux côtés encore aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la majorité, ce n'est pas des immigrés, c'est des Français nés en France, grandis en France, peut-être 3 ou 4 générations, et certaines femmes portent le foulard. Alors, sortons ce débat à le coller systématiquement aux immigrés et parlons d'une question sociétale. Aujourd'hui, le port du foulard choque beaucoup de personnes en Europe. Les gens qui portent ce foulard, ils le font sous des convictions religieuses. Moi, je pense que avec le débat, on arrivera à mieux se comprendre des deux côtés et essayer de calmer le jeu, parce qu'aujourd'hui, on ne fait que de mettre l'huile sur le feu. Mais ce n'est pas un problème d'immigré. Alors, qu'est-ce qu'est un immigré ? Est-ce que c'est la personne qui vient d'arriver qui est immigrée ? Ses enfants qui sont nés en France, est-ce qu'ils sont immigrés ? Moi, je pense que non. Non, quand on est né dans un pays, quand on a grandi dans ce pays, quand on a été à l'école de ce pays, qui nous a enseigné comment fonctionne ce pays, est-ce qu'on a le statut toujours immigré ? Je suis désolé, je vais faire sauter du coq à l'âne. Zemmour est un immigré
aussi.
C'est ce que
j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. À ce moment-là, Zemmour est encore un immigré.
Absolument.
Ouais. Donc, effectivement, il faut... Ce qui est important, c'est de savoir, effectivement, remettre des débats, essayer de comprendre les intérêts des uns et des autres, comment vivre les cultures des uns et des autres, savoir faire un pas de côté et de ne pas tout le temps être dans le jugement.
Pour moi, le plus important, c'est les amalgames. Aujourd'hui, il y a une certaine presse qui pointe du doigt, qui utilise des mots qui font très mal. Aujourd'hui, quand une personne porte un foulard, moi, ce qui m'importe le plus, c'est est-ce que c'est volontaire ou pas ? Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question que je me pose, en quoi ça gêne les autres ? Si vous me posez la question à titre personnel, moi, j'estime qu'aujourd'hui, porter un foulard, ça porte plus préjudice qu'autre chose. Donc, moi, j'encourage plutôt à essayer de calmer le jeu, d'éviter ce truc-là qui apporte beaucoup plus de débats débiles,
Ouais.
Pourquoi ? Tout simplement parce que la majorité a toujours tort. Depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité existe, la majorité a toujours tort. On le voit, ce qui sort des urnes, la majorité a toujours tort. Donc aujourd'hui, la majorité... elle est contre le port du foulard, donc c'est à la minorité de réfléchir à une autre façon de faire. Mais c'est un petit peu débile d'interdire des choses. Aujourd'hui, quand on dit qu'on doit interdire le voile intégral, moi j'applaudis des pieds et des mains. Le voile intégral n'a pas à avoir lieu dans la société française. Quand une personne pratique une religion de façon pieuse, mais qu'elle n'impose rien aux autres, je pense qu'on est en République. Chacun pense ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut.
Chacun fait ce qu'il veut.
Mais, ce n'est pas un droit, ce n'est pas automatique. On n'a pas, sur l'espace public, à dire « moi, je suis de telle religion et j'ai le droit d'appliquer ma religion à l'encontre des lois du pays ». C'est complètement débile. La première chose, c'est respecter les lois du pays et après, chacun pratique sa religion. Moi, j'estime que la religion, c'est de l'ordre privé. Ça veut dire qu'on doit pratiquer sa religion quand on est tout seul, loin des regards. Pourquoi on a besoin de s'exposer ? Pourquoi on a besoin de montrer quand on fait partie d'une telle religion ou une autre ? Ça n'apporte rien au débat. Et je ne pense pas que spirituellement, ça apporte quelque chose.
Écoutez, oui, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un vaste sujet et on en reparle juste après la musique.
« First we walk the hills at dusk, and then we hit the back streets. Same old faces in a dive. Should we pass our turn again? Are you living in a past? Are you living in a past? Can't stand that it's gone. And are you living the moment? You're living it right. You crack the bottle open and you say, hey, whatever turns you on? I'm nothing but a stranger in town. But what if I fall down? I don't want to fall down in the end, oh. Oh, what if I fall back? Oh, 25 years in this shithole, baby, it toughens you surely. Got a melancholy tendency, it runs in the family. Are you living in a past? Are you living in a past? You can't stand that it's gone. Are you in for the ride? But can you handle the ride? And there's a bad moon watching, and you say, hey, whatever turns you on? Nothing but a stranger in town. Oh, what if I fall back? I don't want to fall back in the end, no. Oh, what if I fall back?
Allegri FM avec monsieur Abdelhakim Oudbi pour parler intégration. C'était Touriste Ashburns. Alors moi je voudrais faire un petit parallèle avec le livre d'Amin Malouf, historien et d'origine libanaise.
Très bon livre.
Dans son livre Les Désorientés, il décrit les sentiments, les pensées suscitées par l'immigration et l'exil. Il questionne aussi l'appartenance à un pays et à la citoyenneté du monde. Les romans d'Amin Malouf en général sont marqués par ses expériences de la guerre civile et qu'il a connu dans son pays et l'immigration. À partir de la fin des années 1960, la vie politique libanaise est entachée par des affaires de corruption généralisée de fonctionnaires. La classe dirigeante subit des conflits internes. L'enjeu de cette agitation étant le partage des positions de pouvoir, comme d'habitude. Les mouvements se radicalisent et la tension grimpe. Alors, il dit dans ce livre, « Naître, c'est venir au monde, c'est-à-dire je suis né dans une planète, dans un pays. » Qu'est-ce que vous, que pensez-vous de cela?
Alors, il est Amin Malouf, c'est quelqu'un qui a vécu au Liban, un pays qui est en guerre depuis 1975. C'est plutôt une guerre civile que réellement se battre contre un autre pays, c'est encore pire. Parce que quand on a un ennemi commun, ben ouais, on se mobilise contre cet ennemi. Je prends l'exemple de l'Ukraine, l'ennemi c'est les Russes, donc toute la population ukrainienne fait front et elle est debout contre les Russes. Au Liban, c'était une guerre civile, c'était des Libanais qui se battaient contre des Libanais. Donc c'est encore pire, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas vraiment d'ennemis, tout le monde se tape avec tout le monde. Donc et puis ça dure depuis très longtemps, ça signifie que ce pays, il fait vraiment pitié parce qu'il est déchiré par toutes ces tensions qui existent depuis pratiquement 40 ans et ils n'arrivent pas à en sortir. Donc lui, dans son livre, quand il parle un peu de son enfance, de l'immigration, de tout ça, et il a une autre approche, c'est fuir un enfer plutôt que vraiment choisir de partir avec un projet construit, mûrement construit, et surtout
c'est de la fuite. Quand je dis c'est la fuite, c'est pas péjoratif. Hein,
non, c'est pas péjoratif, mais c'est clair, c'est légitime quand on vit dans un pays en pleine guerre, on n'a qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête.
Donc c'est l'exil, c'est comme unique solution justement aux dilemmes moraux qui sont dus à la guerre. On prend une position de partir parce qu'il y en a qui sont bien sûr restés. Il y a eu quand même 10 millions de personnes, il y a une diaspora de 10 millions de personnes de Libanais qui ont choisi l'exil, mais d'autres qui ont choisi de rester. Donc comment justement on prend position, comment on choisit, c'est compliqué.
Alors, je vais parler de ma propre expérience. Je suis parti d'un pays pour aller dans un autre, le choix était libre et il n'y avait aucune tension. Mais quand j'ai choisi de partir, je n'ai pas fermé la porte derrière moi. Je savais que j'allais avoir un contact continu entre les deux pays. Dans le cas d'un pays en guerre, les gens, quand ils partent, le premier sentiment, c'est l'abandon. J'abandonne mon pays. Donc, vous voyez que c'est un sentiment qui est lourd à porter. Je suis parti, j'ai abandonné une situation, je ne sais pas quand je vais pouvoir revenir, je ne sais pas comment je vais retrouver mon pays. Donc là, on est vraiment dans une autre mentalité. C'est pénible, oui, ça doit être très difficile
très
à vivre
de
nos jours. On a connu ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, c'est affreux que les gens soient obligés de quitter leur pays, d'abandonner leur pays parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
C'est monstrueux. Il dit, donc toujours Amin Maalouf, c'est à ton pays de te persuader de rester. Il a l'obligation de t'assurer protection. Moi, je ne suis allée nulle part, c'est le pays qui est parti. C'est fort hein, ce qu'il dit. L'exil est un thème très important au Liban. Hein. Et donc, c'est pour faire un lien aussi avec l'Ukraine, ton pays ne peut plus te protéger, on part. Quoi. Le pays où tu peux vivre la tête haute, tu lui donnes tout, que ce soit ton pays d'origine ou celui d'accueil.
Ou les deux en même temps, capitaine.
Ou les deux.
C'est une réflexion qui est propre aux pays en guerre, parce qu'on abandonne quelque chose. Si je prends l'exemple d'un Français qui part habiter aux États-Unis, en Asie, pour des raisons professionnelles, artistiques et que sais-je, quand on part, on part, c'est un choix. On n'abandonne rien. On sait qu'on peut revenir en France quand on veut, comme on veut. Il suffit juste d'organiser la logistique. C'est les déplacements, c'est les vacances, c'est tout ça. Dans le cas d'un pays en guerre, les Ukrainiens, aujourd'hui, ils sont en train de partir. Ils sont sûrs d'une chose. Un jour ou l'autre, quand ils vont pouvoir revenir, ils ne vont plus retrouver ce qu'ils ont quitté. Et c'est horrible. C'est horrible. Ça veut dire que c'est un chagrin qui sera éternel. Tu vas choisir de revenir dans un pays qui est sorti d'une guerre. Tu sais que tu as été lâchement attaqué. Tu sais que tu as été lâchement abandonné par tous ceux qui t'ont encouragé à s'opposer à la Russie. Et tu vas revenir et ton pays est détruit. Ça signifie que tout ce qui t'a bercé, tout ce que tu as connu pendant ton enfance... Aujourd'hui, quand on commence à ouvrir les yeux dans la société, on est imprégné par ce qui se passe autour de nous. On a des souvenirs de l'enfance et de l'adolescence qui nous marquent, qui nous forgent, qui nous permettent de construire plus tard. Mmh. Aujourd'hui, ces pauvres Ukrainiens, ils savent une chose, quand est-ce qu'ils vont revenir ? On n'en sait rien, personne ne sait. Mais quand ils vont revenir, le pays a été détruit. Ça veut dire que tout ce qu'on a connu, tous nos repères, tout ce qu'on a l'habitude de voir et de faire... Ben ça a disparu par la folie d'un homme. Et ça, c'est horrible. Donc...
Ce qui est compliqué aussi, je pense, c'est que justement, donc toujours dans ce choix de rester ou de quitter le pays, pour ceux qui, dans l'éventualité, reviendront, je pense aux Ukrainiens, reviendront à la fin de la guerre, j'espère qu'elle sera le plus proche possible, est-ce qu'il peut y avoir des jugements de ceux qui sont restés et qui ont choisi de rester dans leur pays en guerre? Je pense que ça doit être aussi des choses très difficiles à gérer, tout ça.
Alors, il y a je crois que malheureusement, l'actualité est là pour illustrer ce qui se passe. Nous avons des Ukrainiens qui mettent les faibles à l'extérieur de l'Ukraine pour les protéger. Tous ceux qui sont valides, qui sont prêts à prendre des armes, prennent des armes. Donc oui, effectivement, quand les choses vont se calmer, n'importe quelle guerre, une fois que les choses se sont calmées, eh ben, on va regarder qui a fait la guerre et qui n'a pas fait la guerre. bien sûr,
rendre des comptes.
Celui qui a fait la guerre, on va lui donner des médailles. Celui qui n'a pas fait la guerre, ben, le premier réflexe, c'est un traître. Bien sûr que c'est un raccourci que je prends, mais malheureusement,
c'est
ce qui
ça,
se passe.
Mais
c'est ce qui se passe, c'est qu'à un moment, tu étais obligé de partir et tu as laissé des gens qui se sont battus à ta place. Et tu reviens quand ça s'est calmé. Je comprends que le réflexe des gens qui sont restés, ils soient un petit peu amers par rapport à ces gens-là.
Même si c'est plus compliqué que cela.
Oui, mais ne portons pas de jugement court. On ne connaît pas les situations. Chaque situation est unique. C'est difficile, c'est compliqué. Mais il est clair que quand une population subit une guerre, eh bien, ceux qui n'ont pas fait la guerre, on va les regarder de travers, on va les juger. C'est humain, c'est naturel aussi de dire « mais pourquoi t'es pas resté ?»
Pourquoi t'es pas resté ? Bon, on va être un petit peu plus léger. Moi, j'ai des questions à vous poser sur votre arrivée en France. Voilà, beaucoup de changements. Je pensais des choses toutes bêtes comme le vin. Le vin est interdit par les musulmans. Le vin qui a été pourtant chanté par tant de poètes arabes, persans, turcs, la boisson des mystiques. Est-ce que ça vous a surpris de voir que les Français ont quand même une bonne descente et boivent beaucoup d'alcool?
le premier souvenir que j'ai, c'est même si depuis tout petit on m'a enseigné le français, c'était pas la langue que je pratiquais tous les jours, donc je peux dire que le français je l'ai appris dans les livres. Et les premiers temps quand j'étais en France, quand je parlais, mais les gens me regardaient avec un sourire en disant mais c'est un extraterrestre, il parle un français pur. Bon, depuis le temps, je me suis intégré, je parle parisien aussi, donc je passe un peu plus facilement. Mais c'est vrai que oui, je crois pendant les premières années, ça, je vois le sourire sur les gens quand je parlais en français parce que je pratiquais la grammaire correctement, j'utilisais les bons mots, je faisais attention conjugaisons des verbes, et ça c'est un souvenir très agréable qui reste.
Oui, bon, vous avez évité ma question sur le vin, c'est pas grave.
Le vin, je vais en parler du vin. Aujourd'hui, vous me parlez du vin, oui. et vous dites en France, la religion musulmane interdit la consommation de vin, mais vous êtes journaliste, je vous laisse regarder un petit peu ce que le Maroc produit comme vin, et il y a de très bons vins qui sont fabriqués au Maroc. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai découvert en France, ça existait localement, y a des Marocains qui consomment du vin quotidiennement, et puis non, c'était pas quelque chose qui était nouvelle pour moi. Ce qui était nouveau pour moi, c'était qu'on pouvait y accéder librement. Au Maroc, il y a une loi qui interdit de servir du vin aux musulmans. Les bars, ils doivent pas être ouverts à l'extérieur, mais quand on rentre dans un bar au Maroc, on est mort de rire parce que oui, c'est des musulmans qui sont assis. La particularité des Marocains, c'est que il y a une énorme consommation de vin, mais la majorité ne boit pas. Et la question que je me pose toujours, même aujourd'hui,
ceux qui boivent boivent beaucoup.
Ceux qui boivent, ils boivent la quantité des autres.
Bon, ça, c'est rigolo. J'imagine qu'il y avait des manques. Par exemple, la cuisine maternelle, c'est Tahar Benjaloun qui dit « Pour ma mère, manger sa cuisine, c'est l'aimer. » Je trouve ça très joli, cette phrase. Est-ce que d'ailleurs, vos parents vous ont essayé de vous retenir au moment où vous aviez décidé de venir en France?
Il y a eu, quand je me rappelle toujours de la scène, de comment ils étaient habillés. Ils étaient dans le jardin de la maison familiale, tous les deux, en train de boire du thé. Ça fait cliché, ça. Hein. Ça fait
non,
tout de suite.
Non. Faites-nous
rêver. Non, le thé. Boire
du thé à la menthe.
Du thé à la menthe. Et quand je leur ai annoncé que je voulais partir, mais c'est vrai que mon père, il me regarde longuement, et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu vas trouver ailleurs que tu n'as pas ici ? Et on a échangé ouvertement, on a échangé tous les trois, ils ont posé plein de questions. Et ça s'est terminé par, si c'est ton choix et si c'est ce que tu veux, fais-le. Et on sera toujours disponible pour toi.
Mais au départ, c'est vrai que c'était un étonnement pour eux.
Moi, je sais que mes frères et sœurs m'ont dit que ma mère, pendant plusieurs mois, a perdu l'appétit, tellement elle était triste que je parte.
Ah oui, c'est quand même un déchirement.
Et c'est juste, vu qu'on est dans la légèreté et l'humour, après avoir parlé de l'Ukraine, du Liban et tout ça, j'avais un chat au Maroc et mes frères et sœurs m'ont expliqué que ce chat que j'ai imposé à la famille... Qui était très bien avec moi, il était plus ou moins accepté parce que c'était mon chat. Ben, quand je suis parti, ma mère, on a fait son petit protégé. Ça veut dire que c'était open bar pour ce chat. Et il était nourri à l'excès. Personne n'avait le droit de lui dire quoi que ce soit. Il pouvait se poser où il voulait. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait.
C'est drôle. Everywhere I go, telling everyone I know, baby, I love to see you smile. Don't want to take a trip to China. Don't want to sail up the Nile. Wouldn't want to get too far from where you are, 'cause I love to see you smile. Like a sink without a faucet, like a watch without a dial. What would I do if I didn't have you? Love to see you smile. In the summer, in the springtime, the winter or the fall, the only place I wanna be is where I can see you smile at me. In a world that's full of trouble, make it all worthwhile. What would I do if I didn't have you? Just love to see you smile. I love to see you smile. I love to see you smile. Donc, nous continuons à parler des différences des deux pays entre le Maroc et la France. Il y a une question aussi au Maroc, c'est la polygamie pour les hommes. C'est pour les hommes, hein. Uniquement, on est bien d'accord.
Vaste programme. C'est moi, je pense que l'histoire de la polygamie, c'est l'hypocrisie la plus flagrante des sociétés sur Terre. Alors, quand on parle polygamie, ça signifie qu'il y a plusieurs actes de mariage. D'accord. Alors, que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs, je vois tous les jours, des hommes qui ont une épouse et plusieurs amantes.
Tous les jours, vous voyez
bien
ça?
Bien sûr. Je vois des femmes qui sont mariées ou pas mariées, mais qui sont en couple, mais qui ont des amants. Ouais. Attention, je ne généralise pas. Je ne dis pas que c'est toute la société. Ben, au Maroc, il y a des gens qui sur l'aspect acte de mariage, ils ont plusieurs actes de mariage, mais il y en a d'autres, comme en Europe, ben, ils ont des amantes.
Mais qu'est-ce qui se passe au Maroc alors si une femme a un amant?
Alors là, il y a une injustice de la loi marocaine. Alors je vais donner un exemple plus concret. L'adultère est interdit par la loi marocaine.
Donc, dans les deux sens?
Oui, mais... Oui.
C'est, sauf que l'homme a plusieurs femmes.
Mais c'est une loi qui est très peu respectée, mais ce n'est pas grave, c'est l'être humain est comme ça. Donc, si on surprend deux personnes en train de faire un acte sexuel, s'ils sont mariés, bah, la femme, elle va aller automatiquement en prison, et l'homme, il va aller en prison si sa femme dépose plainte.
Ah oui.
Oui, c'est dégueulasse. Enfin, franchement, c'est dégueulasse. On commet exactement la même erreur.
Ouais.
Ce n'est pas une faute, c'est une erreur.
Oui.
On commet la même erreur, mais la loi ne punit pas pareil un homme et une femme. C'est injuste.
Et donc ça, quand vous êtes arrivé en France, c'était...
J'avais pas besoin d'arriver en France. Au Maroc aussi, ça existe. On pense que les mœurs sont un peu plus bridées. Oui, un regard plus fort de la société sur certains aspects. Mais en toute franchise, sur l'aspect d'avoir des conquêtes, d'avoir des aventures, je n'ai pas vu de différence.
Ça existe partout finalement. C'est juste un peu d'hypocrisie,
Absolument.
D'hypocrisie ou pas d'ailleurs.
Donc
sais pas la
polygamie, pour moi, la polygamie, c'est il faut dire les choses. Ça nous choque de voir que une personne a plusieurs actes de mariage.
Oui.
Oui, effectivement, c'est choquant pour...
Surtout quand c'est que dans un sens.
Oui, mais même, moi je pense qu'un papier signé devant un maire ne change pas la mentalité des gens. Je veux dire, moi le premier qui n'a jamais vu une aventure extra-conjugale me jette la pierre. Et je suis tranquille, là, j'aurai jamais de pierre. Ça a toujours existé, ça continuera à exister. Donc... Quand on utilise le mot polygamie, il faut faire très attention. On parle de plusieurs actes de mariage. Mais dans la pratique, des aventures extra-conjugales, ça a toujours existé au Maroc, ça continuera à exister. Et c'est la même chose aussi en Europe.
C'est la sauf même chose que, partout, finalement.
Sauf que la seule différence, c'est qu'en Europe, on vous dit si c'est librement consenti, chacun fait ce qu'il veut.
Oui.
Au Maroc, c'est un petit peu différent.
Il n'y a pas de faute en cas de divorce.
Mais oui, en plus, attention, ça n'a pas disparu de la loi française. C'est les juges qui commencent à ne plus tenir compte de la faute de l'aventure extra-conjugale. C'est très intéressant parce que la loi, elle existe toujours. Ben, la loi, elle date de Napoléon aussi, hein, donc elle a besoin d'être mise à jour. Mais le problème qui persiste, c'est que au Maroc, il y a des associations qui se battent et qui réclament continuellement de dire soit on punit les deux de la même façon, soit on punit personne. Et il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup d'associations qui poussent au Maroc pour dire quand c'est deux adultes et que c'est consenti, on les laisse faire leur vie.
On les laisse faire leur vie. Alors, il y a un autre point aussi, c'est la négociation au Maroc pour tout. Bon, moi, je suis allée en vacances au Maroc aussi. Hein. Et bon, c'est quelque chose de très rigolo. On en rigole. Hein.
Mais, écoutez,
même avec les gens là-bas, on a l'impression que c'est un sport national.
Non, c'est pas un sport. Écoutez, aujourd'hui, ça traverse l'esprit de personne. On est dans une boulangerie, on va acheter son pain. Je prends l'acte le plus simple. Si vous rentrez dans la boulangerie et que vous ne dites pas bonjour, alors je vais quand même préciser, à Paris, ça choque personne qu'on ne dise pas bonjour. Mais partout ailleurs, on rentre dans une boulangerie pour acheter sa baguette. Si on ne dit pas bonjour, on est fusillé du regard. D'accord ? Donc, le mot bonjour fait partie du début d'une communication entre deux personnes en France. Et c'est tant mieux, c'est le minimum, c'est d'avoir des interactions sociales. ben, au Maroc, dites-vous que le bonjour chez les Marocains dure un peu plus longtemps. Et ça fait partie.
On demande d'abord comment va la maman, comment vont les tantes, c'est ça ?
Ah ben, si on veut marchander un prix, qu'on commence par demander au marchand comment va sa maman, on gagne des points. C'est la culture locale. Donc, ce n'est pas un sport, c'est juste une interaction sociale. Et que ça fait partie, les gens adorent discuter. Que même dans une terrasse de café, on peut discuter avec la personne à côté de soi. Il n'y a pas besoin de marchander. C'est qu'ils parlent facilement entre eux. Donc, et forcément, ben, quand on va quelque part, ben, on continue. Quand on veut acheter quelque chose,
on marchande. Et ça, justement, quand vous êtes arrivé en France, vous n'avez pas trouvé que les gens étaient un peu froids ? Vous aviez envie de discuter facilement avec les gens de manière spontanée, et est-ce que vous avez eu...
Ça, c'est la première heure des immigrés.
Oui.
Ils arrivent quelque part, ils sont coupables de quelque chose. Moi, ça ne m'a pas traversé. Je suis là, je suis légalement ici, mais je vis comme tout le monde. Je parle avec tout le monde. Celui qui ne m'aime pas, il va me le dire et je passe mon chemin. Et celui qui m'aime bien, on continue à parler. Donc, c'est de l'autocensure et c'est très mauvais, l'autocensure.
D'accord. Alors, je voulais parler aussi un peu de vocabulaire, parce que les langues voyagent. Donc, on a importé beaucoup de mots, dont des mots arabes, qui se retrouvent dans nos dictionnaires de tous les jours.
Vous avez parlé de vin. Eh ben, l'alcool, c'est un mot arabe.
Ah ben voilà, l'alcool. Ça, c'est rigolo.
C'est bizarre, on retrouve ça tout le temps et souvent. Café, ça vient d'un mot arabe. Il y a énormément. Moi, je crois que j'ai lu il y a quelques mois quelqu'un qui avait écrit un petit peu sur les imports des mots étrangers dans la langue française.
Oui.
Et on est en France, on parle de la langue française, mais si on regarde un peu ce qu'il y a dans la langue espagnole par rapport à la langue arabe, c'est extraordinaire le mélange des langues qu'il y a eu. Mais ils ont cohabité pendant 7 siècles ensemble. Donc forcément, ça a laissé des traces.
On devrait faire pareil, nous, les humains.
Oui.
Ce qui est alors très rigolo, c'est que beaucoup de Français, finalement, ne connaissent pas la nationalité de leurs grands-parents. Pascal Blanchard, un historien de l'immigration, nous raconte, si vous remontez sur 20 générations, vous avez une bonne chance de vous trouver un ancêtre noir originaire d'Haïti, d'Afrique ou de Saint-Domingue. C'est rigolo quand même.
Oui. Oui, alors, il y a un doctorant espagnol qui a fait l'étude des gènes espagnols et marocains. Alors, son étude est assez extraordinaire parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de se faire un test d'ADN et demander à ce qu'on vous dise « tel gène, il vient de quelle région, de machin, de truc ». Ouais, ça fait très à la mode, mais je vais en parler pour la dernière fois. J'aimerais bien voir ce test pour Éric Zemmour, qu'on rigole un petit peu.
Bon, on va lui suggérer, alors. C'est une bonne idée. Sinon, aujourd'hui, quelle est la motivation des jeunes Marocains à venir s'installer en France ?
Alors, il y a deux. On en a parlé au début de l'émission.
Oui.
Il y a l'immigration qui est choisie. Il y a l'immigration qui n'est pas choisie, c'est les clandestins qui traversent la Méditerranée. Et puis, il y a ceux qu'on va chercher là-bas. Il ne faut pas oublier. Il y a aujourd'hui, officiellement en France, il y a un truc qui s'appelle visa compétence. Ça veut dire que la France autorise des diplômés de tous les pays, ce n'est pas spécifique au Maroc, de tous les pays, à pouvoir venir travailler, s'installer en France, librement. Il suffit juste la seule condition, c'est qu'une société accepte de vous embaucher.
Ouais.
Alors là aussi, c'est pour... dans la campagne électorale, on n'en entend pas beaucoup de ça. Ceux qui sont diplômés, on veut bien les prendre, et les autres, on n'en veut pas. Bien sûr, on n'a pas vocation à héberger la misère du monde. La misère du monde, il faut être réaliste. Mais aujourd'hui, on a un pays qui donne un exemple extraordinaire sur les mélanges des cultures, c'est les États-Unis. J'ai pas besoin de dire, c'est la première puissance militaire, c'est la première puissance économique et j'en continue. C'est un pays qui a accepté ses origines mélangées et qui continue à gérer ses origines mélangées. Ils ont aucun complexe, c'est le seul pays au monde où on a aucun complexe à dire « je suis sur le sol américain ». J'ai un passeport américain, mais je suis irlandais, mais je suis français, mais... Donc, ça choque personne. Aujourd'hui, donné dans le vieux continent. Et dans le vieux continent, eh ben, y a un complexe sur ce qu'on a fait faire un petit peu dans ces pays-là. Donc, ça a du mal à passer. On a du mal à se dire, OK, bah oui, mais on a déplacé des populations, et il faut assumer qu'on les ait déplacées et qu'on arrête de se voiler la face.
On a du mal à avancer sur ce sujet-là.
Vous savez, en ce moment, on parle un petit peu de la fin de la guerre d'Algérie. Et j'ai lu un jour un journaliste qui avait fait un rapport sur les harkis qui sont retrouvés en Nouvelle-Calédonie.
Oui.
La France les a déplacés en Nouvelle-Calédonie au début des années 60. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir, quand on met une population très loin de ses origines, comment elle se comporte. Là, nous sommes dans la quatrième génération, et cette quatrième génération, elle sait que les arrière-grands-parents sont venus d'Algérie, mais ils se sont complètement noyés dans la masse. Donc, arrêtons de dire on va imposer ceci, on va demander aux gens de faire ceci ou cela. Si les gens sont bien quelque part, ils s'installent.
Ils s'installent.
Et ouais. Laissant faire les choses. Aujourd'hui.
Il faut leur donner les conditions.
Voilà. Aujourd'hui, on entend aussi une théorie du remplacement et tout ça, mais arrêtons. C'est l'autoconfinement et le repli sur soi-même.
C'est
pas ça qui va faire avancer les choses. Quand on regarde des choses comme la pyramide. La pyramide démographique, elle dit tout. On vit dans des pays, on a des instituts qui font les statistiques, qui sont capables de nous dire tout ce qui va se passer. Est-ce que cette théorie de remplacement, elle est vraie ou pas vraie? Mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il y ait des mélanges se fassent? L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait pour son pays. C'est ce qui compte. Mais on s'en fout de la couleur, on s'en fout de tout ça.
De la couleur de peau, finalement.
Mais oui, mais ce qui est important, c'est qu'on travaille pour son pays. On est fier de travailler pour son pays. On est fier de participer à créer la richesse dans son pays. C'est ça qui compte. Maintenant, les origines, on se fait une fixation sur les origines, mais c'est de la nostalgie, tout simplement. Et puis, c'est ce sentiment, on a besoin, il y a certaines personnes, elles ont besoin de se sentir supérieures.
Ouais, c'est
oui,
ça, en
moi,
fait.
Je suis blanc, je suis supérieur à l'autre. Il y a encore
aujourd'hui... C'est un sentiment de supériorité, oui.
Mais c'est malheureux, c'est très grave. Aujourd'hui, la Terre a connu la Deuxième Guerre mondiale qui était basée sur nettoyage
là-dessus.
Ethnique. Et on voit les mêmes théories ressortir autrement. C'est la suprématie des blancs.
Blancs.
Mais Hitler, il disait, c'est la suprématie des Aryens. C'est exactement la
Donc,
même chose.
Donc, il faut se replonger un petit peu dans l'histoire. Et puis, voilà.
L'être humain a la mémoire très courte.
Très courte, oui.
Très, très courte. On n'apprend pas de ce qui s'est passé avant. On est toujours dans le profit immédiat sans voir qu'est-ce qui va se passer plus loin.
C'est bien dommage. Malheureusement, on est obligé de conclure là-dessus, Monsieur Houdbib. L'émission est passée très, très vite. Je voulais juste vous dire, on a entendu parler récemment de la famille App en Argentine qui a bouclé un road trip de 22 ans. Ils sont partis
dans
à deux.
Dans une vieille voiture.
Dans une vieille voiture.
Très belle voiture.
Vous connaissez la marque
magnifique.
De la voiture.
C'est magnifique ce qu'ils ont fait.
Alors, ils sont partis en couple et ils sont venus à 6. C'est assez rigolo. Ils ont retenu une chose principale. L'humanité est merveilleuse. Donc, je propose que nous restions sur cette note porteuse d'espoir pour terminer notre émission. Monsieur Abdelhakim Houdbib, je vous remercie infiniment pour cette belle transmission. Et je voulais remercier aussi Maël Lorac, le technicien. Voilà.
Merci beaucoup.
Et puis, je vous retrouve dans 15 jours pour une émission sur la diplomatie et la culture. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind, then I look at you, and the world